Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la 11e étape entre Albertville et le col du Granon qui a été remportée par le Danois Jonas Vingegaard qui prend aussi le maillot jaune comme nous l'explique Sofiane Amazian pour RFI.
Victoire éclatante de Jonas Vingegaard, sa première sur ce tour pour le coureur de l'équipe Jumbo-Visma. David Gaudu distancé une partie de la course. Le Français termine cinquième de l'étape en s'offrant le luxe de doubler un Tadej Pogacar à la dérive dans les derniers kilomètres. Il raconte.
Pogacar explose, je m'y attendais pas, mais je m'étais dit que vu les efforts qui s'étaient mis, les peignets qui s'étaient mis pendant 60 bornes dans les bosses, je me suis dit qu'il y en a forcément qui allaient craquer et se sont retrouvés un par un dans la montée et je les voyais au loin. Du coup, je me suis dit, faut que j'aille les chercher un par un. Et j'étais cherché Poga, j'étais cherché Yates. Il m'a pas manqué grand chose pour aller chercher Thomas, mais voilà, aujourd'hui c'était Granon, demain c'est l'Alpe d'Huez. Et mentalement dans la tête, j'avais peut-être même plus l'étape de l'Alpe d'Huez dans la tête que l'étape de Granon aujourd'hui.
Et David Gaudu avec Thomas de Saint-Léger. Un autre Français s'est distingué, Romain Bardet, troisième de l'étape et nouveau dauphin au classement général. 12e étape, donc feu d'artifice attendu en ce 14 juillet entre Briançon et l'Alpe d'Huez.
Et la carte postale de cette 11e étape, l'accès au col mythique est difficile pour le public fermé aux voitures la veille de l'étape. Reportage Alexis Bédu pour RFI.
Sur un parking de zone commerciale à Briançon, un cycliste en perdition a un démonte-pneu à la main.
Bah, j'ai crevé encore une fois de plus et donc malheureusement j'essaie de réparer pour rejoindre la course. Juste au pied du Granon, là, au plus proche, si c'est possible, enfin si j'arrive à réparer d'ici là.
À 5 km du pied du col, Jean-Baptiste est encore loin de son objectif. Mais le vélo est devenu le seul moyen d'accéder à ce prestigieux sommet le jour de la course.
Bah, moi j'essaie d'y aller en vélo, mais après monter en haut, ça demande en effet d'être très fort. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage si tout le monde peut pas y aller.
En haut des cols, désormais, on trouve principalement des cyclistes amateurs dotés d'un bon coup de pédale. Quelques randonneurs aguerris sont là. Pour les touristes et habitants des vallées, le kilométrage de barrière s'allonge un peu plus chaque année. Pierre Carré est journaliste spécialiste de cyclisme.
Ce grand lieu, ce grand chaudron, cette ébullition de spectateurs de part et d'autre de la route est en train petit à petit de s'évaporer. On ferme l'école la veille, parfois même l'avant-veille. Et tout cela pour éviter en effet qu'un attroupement, pour éviter aussi la consommation d'alcool. Disons que le Tour de France gagne en hygiène, en propreté, en sécurité, ce qu'il perd en popularité, en convivialité.
L'Alpe d'Huez et ses mythiques 21 lacets devraient tout de même ressembler au chaudron habituel. Les restrictions de circulation n'ont pas empêché les Hollandais de s'installer dès le week-end dernier dans leur fameux virage.
On passe au foot, l'Euro de foot féminin qui se poursuit avec la victoire de la Suède contre la Suisse 2-1. Les Pays-Bas ont battu le Portugal 3-2. Mardi, le Danemark s'est imposé contre la Finlande 1-0. L'Allemagne a battu l'Espagne 2-0. Foot, toujours la CAN féminine qui se poursuit au Maroc avec hier le début de la phase à élimination directe. La Zambie qualifiée sort le Sénégal 4-2 au tir au but après prolongation et se qualifie pour sa première Coupe du Monde de son histoire. On écoute la déception, la réaction du coach sénégalais Moussa Cissé sur RFI.
Forcément de la déception quand on ne gagne pas, surtout qu'il y avait de la place pour le faire. On a fait un match de bonne qualité. Je pense que sur la compétition, c'est le meilleur match qu'on a fait. Malheureusement, on le perd. On l'a bien contrôlé, on a marqué les premiers et sur des erreurs techniques, l'adversaire est revenu et nous a amené au tir au but. C'est vrai que sur le papier, cette équipe de Zambie qui a beaucoup d'expérience partait favorite, mais on a su élever notre niveau de jeu, on a su rivaliser avec elle. Je félicite les filles pour vraiment leur engagement, leur solidarité, le match qu'elles ont fait ce soir. Je suis un peu triste pour elles et pour nous et pour le Sénégal, parce qu'on voulait vraiment aller à cette Coupe du Monde. Mais il y a encore de la place pour y aller et on va se battre pour.
Les Sénégalaises peuvent encore rêver de cette compétition, mais il faudra d'abord remporter un match de classement le 17 juillet prochain. Et puis dans l'autre match d'hier, le Maroc s'est imposé contre le Botswana 2-1 et part en quart de finale. Ce jeudi, Afrique du Sud, Tunisie, Cameroun contre le Nigeria. Paul Pogba est désormais à la Juve de Turin. Les explications d'Antoine Grenier pour RFI.
Nouveau chassé-croisé entre Manchester United et la Juve pour la pioche, c'est son surnom. Libre de tout contrat, l'international français s'est engagé pour 4 ans avec une Juve qu'il avait quittée en 2016 pour Manchester United contre une somme de 105 millions d'euros. Une expérience anglaise au bilan mitigé, mais que Paul Pogba ne regrette pas.
Je crois au destin, je suis content de tous mes choix, la vie est ainsi, parfois ça ne se passe pas comme on le voudrait, mais je suis content de ces années à Manchester. J'ai grandi, j'ai appris, je suis devenu un homme, ce n'était pas une erreur selon moi. Aujourd'hui je suis heureux d'être à la Juventus et je vis le moment présent.
Paul Pogba dont la mission sera de ramener la Juve au sommet du foot italien après 2 ans sans titre de champion.
Et puis en portugais, Rui Vitória est à la tête de la sélection égyptienne et on parle de l'équipe masculine. Sarah Loubacouche, RFI.
Des pharaons prêts à se relancer et pour cela ils comptent sur Rui Vitória, nouveau meneur des troupes. Le portugais arrive en remplacement de Ehab Galal sur le banc égyptien, le successeur de Carlos Queiroz qui n'avait tenu que 2 mois à la tête de la sélection, limogé après une défaite face à l'Éthiopie en qualification pour la CAN 2023. Une défaite au goût amer qui s'ajoutait alors à 2 désillusions majeures vécues sous l'ère Queiroz. Cette défaite en finale de la CAN au tir au but face au Sénégal en février, suivi d'un échec à valider leur ticket pour le Mondial Qatari, toujours face au Sénégal, toujours au tir au but. Rui Vitória est donc attendu de pied ferme pour redresser la situation. L'ancien coach de Guimarães et de Benfica vient de conclure une éphémère expérience sans éclat au Spartak Moscou. L'ex-milieu de terrain fera aux côtés des pharaons ses tout premiers pas sur la scène internationale. Reste à savoir si son passage sur le banc sera plus long que celui de son prédécesseur.
Un mot de basket pour vous dire que le pivot de Philadelphie, Joël Embiid, né au Cameroun, a obtenu la nationalité française. Les précisions de Christophe Diremzian pour RFI.
C'est un décret discrètement publié dans le journal officiel du 5 juillet qui doit faire saliver les fans français. Joël Embiid, né à Yaoundé, a beau n'avoir jamais vécu en France ni joué la moindre minute dans un club de l'Hexagone, il a vu finaliser une démarche mûrement réfléchie, quitte à susciter quelques débats sur le plan éthique. Dès 2016, le pivot des Sixers avait en effet déjà approché la Fédération française, initiative alors sans effet, mais début mai, le manager général des Bleus, Boris Diaw, confirmait qu'une procédure de naturalisation était cette fois bien en cours, tout en ajoutant que cela n'ouvrirait pas automatiquement les portes de l'équipe de France à la star de Philadelphie. Le sélectionneur tricolore Vincent Collet aurait pourtant tort de se priver de lui. Malgré une phase de play-off NBA perturbée par une blessure au pouce et une fracture au front, Joel Embiid a tourné à plus de 30 points et 11 rebonds de moyenne par match et ses 2m13 s'associeraient sans doute bien avec les 2m16 de Rudy Gobert dans la raquette. En tout cas, une telle perspective ne sera pas d'actualité pour l'Euro en septembre, la liste des présélectionnés ayant déjà été annoncée. Rendez-vous donc peut-être pour le Mondial 2023 et les JO 2024.
La révélation d'un des grands athlètes du monde, le Britannique Mo Farah, 4 fois champion olympique pour Team Great Britain, et il dit avoir été victime de trafic humain quand il était gosse en Somalie, et un documentaire a été diffusé sur son histoire hier sur la BBC. Daniel Valo, RFI.
C'est l'une des plus grandes stars de l'histoire de l'athlétisme, auteur d'un doublé historique aux JO de Londres en 2012, puis de Rio 4 ans plus tard. Mo Farah révèle être arrivé illégalement en Grande-Bretagne alors qu'il avait 9 ans, sous une fausse identité.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Jusqu'à présent, Mo Farah prétendait avoir rejoint son père au Royaume-Uni avec sa mère et 2 de ses frères et sœurs. En réalité, son père est mort en Somalie alors qu'il avait 4 ans. Et lorsqu'il est arrivé au Royaume-Uni, 5 ans plus tard, c'est accompagné d'une femme qui va lui donner un nouveau nom et le forcer à travailler comme domestique au sein d'une famille britannique. C'est son professeur de sport qui va finalement le sortir de ce calvaire et lui permettre de rejoindre une famille d'accueil digne de ce nom. Le reste de l'histoire est connu. Mo Farah va devenir 6 fois champion du monde du 5000 mètres, triompher aux Jeux Olympiques et acquérir la nationalité britannique.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.